Vous écoutez CFM, émission spéciale élections législatives. Et c'est aujourd'hui avec Françoise Redet, candidate de l'Union des centristes sur la deuxième circonscription du Tarn. Bonjour, bonjour à tous, c'est CFM, émission spéciale législative, scrutin des 10-17 juin prochain, une émission co-animée par Jean-Pierre de Testa. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Patrick.
Et non pas de Tasta, ça y est, j'ai eu ma correction. Aujourd'hui, avec Françoise Redet pour l'Union des centristes tarnais. Bonjour.
Bonjour Patrick, bonjour Jean-Pierre.
Rapide présentation, vous avez un enfant, vous êtes médecin généraliste, maire adjoint, puis maire de Groyer de 95 à 2005, ancien vice-président de Tarn et d'Adou. Il n'y a pas marqué vice-présidente, je note. Et puis, vous êtes accompagné de Paul Martin, lui vice-président du nouveau centre Tarnais. Bonjour Monsieur Martin, je vais vous demander de vous présenter parce que j'ai pas d'infos.
Bonjour, donc Paul Martin, natif de Blaye-les-Mines, dans Tarnais de longue date et de souche, et donc je représente le nouveau centre dans ces élections législatives avec les trois candidats que nous avons aboutés pour ces élections législatives.
On va donc commencer peut-être avec une petite explication. Vous étiez venu nous voir à l'époque des présidentielles, vous vous présentiez pour le Modem, vous êtes aujourd'hui avec l'Union des centristes tarnais. Bon, c'est pas le grand écart, mais il faut nous expliquer.
Non, c'est pas un grand écart du tout. Je vous explique. Les tarnais ont réalisé une chose, c'est que les partis du centre, les quatre partis du centre principaux, à savoir l'Alliance centriste, le Nouveau Centre, les radicaux valoisiens et le Modem, sont des personnes qui sont plus ou moins issues de l'ancienne UDF, ou qui, en tout cas, ceux qui n'en faisaient pas partie, ont des idéaux communs. C'est basé essentiellement sur l'Europe, sur l'humain, mais dans ce qu'il a de noble. Le mot humaniste me gêne parfois un petit peu, c'est philosophique. L'humain, c'est vraiment du concret. Sur l'humain et sur le côté, je dirais, social aussi, qui va avec.
Allez-y, finissez.
Nous avons un dernier point important qui est aussi la gestion.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a un désaccord avec François Bayrou?
Non, c'est pas du tout une question de désaccord avec François Bayrou, pas particulièrement, puisque cette affaire a commencé fin 2011, donc avant les prises de position acrobatiques, éventuellement pour certains, de François Bayrou. Disons que les centristes tarnais, avec un C majuscule, se sont rendus compte que rien ne les séparait et que tout les rapprochait. Donc, ils ont décidé que chacun pouvait garder son libre arbitre au niveau des présidentielles et voter pour le candidat qui lui semblait le plus apte. Mais par contre, au niveau local et intermédiaire, ce qui nous intéressait, c'était le terrain et ce que nous avions en commun, c'est-à-dire notre terre du Tarn pour ce qui est de nous.
Et on peut presque parler de pragmatisme tarnais puisque cette union a servi d'exemple à d'autres régions
Tout
en France.
Tout à fait, voilà. Donc ça fait tache d'huile actuellement.
La vie politique n'est pas un long fleuve tranquille et vous êtes bien placé pour le savoir. Lors de notre dernier entretien à CFM Radio Corde, vous avez défendu bec et ongle le projet de François Bayrou.
Mais...
Puis celui-ci a appelé à voter pour François Hollande. Et là, la grosse colère vous prend. Et vous, sur votre blog, vous parlez de trahison, de Bayrou titanique, le bateau. Hein.
Oui.
Dans la foulée, l'UMP vous propose son investiture. Après réflexion, vous refusez, vous nous direz pourquoi. Et vous rejoignez l'alliance centriste de Jean Arthuis qui, lui, a appelé à voter pour Nicolas Sarkozy. Pourriez-vous expliquer aux électeurs les raisons qui ont précédé à votre choix actuel?
Vous avez raison. Quand nous sommes venus avec Christian Andrieu, nous venions pour, rappelez-vous, présenter et soutenir le programme de François Bayrou et non pas l'homme François Bayrou. Donc le programme, je continue à dire que le programme était excellent et je continuerai à œuvrer dans cet esprit. Il est très proche d'ailleurs du programme des trois autres formations, je veux dire, on a tout ça en commun. Par contre, bon, ben, c'est pas parce que le capitaine du navire saute à la mer que tout le bateau doit sauter à la mer.
On n'est pas des moutons.
Voilà, exact, mais tout à fait. Donc, partant de là, il a pris sa décision, il a son libre arbitre en tant qu'homme. Il a bien précisé que c'était une décision qu'il avait prise en tant qu'homme. Moi, en tant que femme et en tant qu'homme avec un H majuscule, ben, je prends mes décisions aussi. Donc, quelque part, moi, mon motif et mon moteur, c'est l'union des centristes.
Oui, donc si vous n'avez pas accepté l'investiture de l'UMP, c'est que vous êtes partiellement ou totalement, je ne sais pas, en désaccord avec l'UMP.
Ben, disons que tout au niveau de l'UMP ne me convient pas non plus. Attendez, j'aurais la carte de l'UMP, je ne serais pas centriste.
Quoi en particulier?
Ben, disons qu'il y a quand même certains petits débordements qui me gênent un petit peu.
Sur l'immigration.
Voilà, on peut pas être humaniste et en même temps tout accepter. Bon, tout n'est pas jeté dans le programme de l'UMP. Je veux dire,
je pense donc que c'est plutôt un problème de comportement et certaines lois qui ont été appliquées, comme par exemple sur les étudiants étrangers.
La circulaire de Guéant.
Il est certain que cette circulaire donne à réfléchir. D'autant que maintenant, autant c'est quelque chose que j'aurais défendu il y a 40 ans, autant maintenant je ne la défends plus. Puisqu'autrefois, il y avait des diplômes de fac et des concours d'État. Donc, vous aviez des étudiants étrangers qui passaient avec un 8 de moyenne et les étudiants français, pour avoir leur diplôme d'État, étaient obligés de se soumettre à un concours et avoir au minimum 10 de moyenne. Donc, on avait des différences de compétences. Même si les gens intrinsèquement avaient la même intelligence, il y avait des différences de niveau de compétences. Et on ne pouvait pas admettre ensuite que l'étudiant qui finalement avait un sous-diplôme entre en concurrence avec ceux qui avaient fait l'effort d'être diplômés. Maintenant, le diplôme est le même. Donc, à partir du moment où la qualité est la même et que la personne s'intègre, je pense que le travail, c'est la meilleure intégration qui puisse exister.
CCFM, émission spéciale élection législative. Avec aujourd'hui Françoise Redet, candidate de l'Union des centristes sur la deuxième circonscription du Tarn. On en arrive à une partie qui va vous demander, Françoise Redet, de vous positionner par rapport aux mesures qui ont été annoncées du nouveau gouvernement et suite à l'élection de François Hollande. On va commencer peut-être avec l'emploi, la création d'un ministère du redressement productif de la France. La stratégie de Hollande, comment vous la percevez? Qu'est-ce que vous y ajouteriez? Qu'est-ce que vous supprimeriez? À moins que vous ayez une vision totalement différente.
Écoutez, il y a une chose qui m'interpelle, c'est que nous avons là un président élu récemment et un ministère qui est fait pour ne pas durer. Donc, créer des schmilblicks pour quelques semaines, je n'en vois pas trop l'utilité. Je pense qu'un premier gouvernement devrait être un gouvernement réduit pour faire marcher les affaires courantes. Et laisser ensuite. Enfin, moi, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Quand j'étais dans le provisoire, je ne mettais rien de définitif.
Je crois que la stratégie de François Hollande, c'est de montrer aux Français qu'on s'attaque vite au dossier. Est-ce que les Français ne lui auraient pas reproché de faire ce que vous auriez fait?
Non, je pense qu'il y a. De toute façon, il y a des choses, comme on dit vulgairement, il y a des coups qui sont partis là actuellement. Donc, il va falloir accompagner parce que de toute façon, c'est pas parce qu'on change de présidence qu'on arrête la politique et les politiques engagées. Donc là, c'est un gouvernement d'intérim. Je dirais les grands ministères classiques, on en a besoin et c'est indispensable. Bon, des ministères un petit peu, je dirais schmilblick, où les Français comprennent pas ça, à quoi ça correspond, quoi. Ça me paraît pas indispensable actuellement. Ensuite, une réforme éventuellement du type de ministère qu'il établisse, après tout, c'est le chef de l'État, il a le droit de choisir ce qu'il veut faire, mais à ce moment-là, avec un mode d'emploi. Là, les gens qui m'en parlent, ce ministère en particulier, d'abord le nom les fait rire. Et en plus, ils ne comprennent pas à quoi ça correspond, quoi. Donc, je ne critique pas, si vous voulez. On n'a pas le temps de critiquer François Hollande actuellement. Moi, je me dis que s'il applique son programme tel qu'il l'a annoncé, il va se casser la figure. Bon, ça, je peux le dire, parce que les économistes, qui sont beaucoup plus intelligents que moi, le disent. En France, et je pense que François Hollande s'en rend compte parce que c'est un homme intelligent.
Ah, il y a différentes écoles chez les économistes aussi. Oui, beaucoup avaient soutenu son programme économique à l'époque des présidentielles.
Oui, mais comment ça s'inquiéter finalement du futur? Donc, tous les candidats font en particulier les présidentielles, beaucoup de promesses. Il y avait les 101 propositions de Mitterrand. Et il y en a pas
du rêve à la réalité.
Voilà. On fait avec ce qu'on a. Et je vous dis, il y a toutes les affaires courantes qu'on est obligé de digérer et qui vous freinent dans ce que vous voudriez faire éventuellement.
Une réaction par rapport au positionnement de François Hollande vis-à-vis de la dette grecque, cette négociation engagée avec Angela Merkel. Suit-on le bon chemin, Françoise Redet?
Moi, je trouve. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu choquée depuis le début. Finalement, cette histoire, ce positionnement complètement frontal vis-à-vis de l'Allemagne. Il ne faut pas oublier quand même que les pères fondateurs de l'Europe étaient des franco-allemands et dans l'esprit de l'union franco-allemande à la suite de guerres, pour pas dire des trois guerres, deux guerres mondiales et trois grosses guerres qu'il y avait eu avant. Dire je rentre dans l'art de l'Allemagne de front, c'est pas habile, déjà. D'autre part, faire croire aux Français qu'on va pouvoir faire changer un traité européen ou des engagements européens, c'est absurde. Si à chaque fois, il y a 25 pays dans l'Europe, si à chaque fois qu'un pays change de gouvernement, on renégocie les traités, les arrangements, tout ce qui a été signé, bon, on passera notre temps à ça, là. L'Europe n'avancera jamais, elle reculera même.
Ceci dit,
c'est Pénélope qui défait la nuit ce qu'elle a fait le jour, quoi, je veux dire.
Ceci dit, l'idée d'inclure un volet croissance.
Mais il y était déjà.
Comment?
Disons, il avait déjà été envisagé. On en parlait déjà, les différents gouvernements en parlaient déjà. Donc, quelque part, soit on enfonce la porte ouverte en voulant que la croissance, soit on fait ce qui était déjà un peu dans les tuyaux des différents pays européens, c'est-à-dire que on fait de la rigueur avec une petite pincée de croissance quand même, parce qu'on sait très bien que s'il n'y a pas de croissance du tout, on va au mur aussi, quoi. Quelque part, le tout, c'est de savoir faire le dosage alchimique.
Vous écoutez CFM, émission spéciale élections législatives. Avec aujourd'hui Françoise Redet, candidate de l'Union des centristes sur la deuxième circonscription du Tarn. Allez, on en arrive à des questions un petit peu plus locales. Je prends pour exemple, afin qu'on évoque le sujet de l'école, les parents de Castelnau de Montmiral en lutte depuis plusieurs mois contre la suppression d'une classe à la rentrée prochaine. Il faut dire que, en plus du simple fait d'une suppression de classe, ça veut dire qu'ils vont se retrouver avec une classe avec trois niveaux qui ne se suivent pas. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces parents aujourd'hui? Quel est votre positionnement? Alors, il y a des espoirs avec les 60 000 postes annoncés sur plusieurs années.
Oui, disons que moi, ce qui me gêne, c'est ça. C'est la seconde partie d'autre phrase, c'est les trois sections qui ne se suivent pas. Les classes à plusieurs sections, elles ont fait leur preuve. On sait très bien que souvent, ce sont des enseignants extrêmement motivés qui demandent ces postes-là et qui sont des enseignants brillants. Il y a des très bons résultats dans les classes à plusieurs niveaux. Donc moi, la classe à plusieurs niveaux ne me gêne pas. Par contre, parce que justement, ça permet de garder un petit peu en retrait, enfin, d'éviter de garder en retrait justement ceux qui ont du mal à suivre parce qu'ils ont une possibilité un petit peu intermédiaire, et les élèves brillants ont une possibilité aussi d'avancer plus vite. Donc en fait, je trouve que c'est une très bonne chose. Ça se défend. Par contre, quand c'est des sections qui ne se suivent pas, là, il y a problème. Parce que là, je pense qu'on va déstabiliser les enfants.
Jean-Pierre ?
Non. J'aurais voulu parler de la santé, mais c'est peut-être un peu trop tôt.
Vas-y, on change l'ordre du jour.
Voilà.
Ça m'intéresse en plus.
Oui. Vous êtes bien placé là aussi, voilà, pour en parler.
Hein. C'est une partie de mon programme.
Médecin généraliste. Alors, dans votre programme, vous parlez de soins, vous parlez de santé. Vous voudriez les mêmes soins pour tous. Vous ne voulez pas de médecine à deux vitesses. Je pense que malheureusement, il n'y a plus de deux vitesses maintenant dans la médecine. Il y en a trois, voire quatre vitesses. Comment comptez-vous arriver à ce qu'il y ait une même médecine pour tous et les mêmes soins pour
Écoutez,
tous?
Écoutez, je vais me projeter. Je suis à l'Assemblée nationale. Nous sommes le 17 au soir. On va se donner jusqu'au 18 au matin.
Un peu mal à la tête.
Juin, c'est une bonne date, le 18 juin. Hein, oui.
Eh bien, je vais appeler à voter une loi qui ira un petit peu dans ces deux sens. C'est une petite loi, une loi à tiroir. Je considère, en tant que médecin, j'ai fait toutes mes études, et mon mari qui est décédé maintenant était médecin aussi, et nous avons fait toutes nos études avec une bourse d'État. Donc je connais les difficultés que peuvent rencontrer les étudiants en médecine en particulier, les étudiants en général et en médecine en particulier. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que nous avons un avantage en France, qu'on a du mal à comprendre et à réaliser parce qu'on y est habitué, c'est que les inscriptions en fac ne sont pas chères. Il faut être honnête, elles ne sont pas chères. Et les études sont entièrement gratuites. Donc, qui est-ce qui nous paye nos 8 ans d'études en moyenne à minima? C'est le contribuable français. C'est de l'argent public. Donc, quelque part, le devoir, c'est de rendre. On se contente pas de prendre, il faut rendre. Donc, je ferai deux choses. La première, ce serait d'imposer, je dirais, à l'étudiant. Non pas ce que j'entends dire parfois, c'est-à-dire on va donner une bourse, on va donner de l'argent pour les études, etc. En contrepartie, ils iront s'installer dans les coins perdus. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas d'argent seront automatiquement envoyés dans les coins perdus. Ça me plaît pas. Donc, quel que soit, si vous voulez gagner quelque chose ou ne pas rentrer dans ce système, vous allez faire vos études ailleurs. Mais en France, on fait ses études gratuitement et on rend à la société ce que la société vous a donné.
On fait bouger le numerus clausus.
D'une part, bouger le numerus clausus, et ça, je comprends pas que les énarques avec l'informatique, les statisticiens, etc., n'aient pas réglé avant. Et d'autre part, on doit 5 ans, ou 6 ans, ou 3 ans, je ne sais pas, ça c'est à calculer, il y a des spécialistes pour ça, à l'État, à la France. Quand je dis à l'État, c'est pas à l'État, c'est aux citoyens français. Et donc, on s'installe en fonction des besoins.
Et puis,
Et ensuite, l'expérience montre que quand quelqu'un a passé 5 ans dans un lieu, il s'est marié, s'il fait des copains, il a sa maison, il reste. Parce que finalement, on est très bien dans les pires coins de campagne, on y est très bien. Moi, je suis médecin de campagne, et je peux vous dire qu'il y a plein d'endroits où j'aimerais.
Vous écoutez CFM, émission spéciale élections législatives. Avec aujourd'hui Françoise Rodet, candidate de l'Union des centristes sur la deuxième circonscription du Tarn.
Et je vais revenir sur la fiscalité et la notion de richesse. Est-ce que vous pensez que 45% de taux d'imposition à partir de 150 000 euros annuels, c'est trop?
Là, j'ai pris la calculette, 150 000 euros.
Oui. Ça fait 1 million d'anciens francs, enfin de francs.
1 million de francs, ça ne me paraît pas.
Oui, savoir que sous Mitterrand, c'était plutôt 63%.
Oui, non, ça ne me paraît pas.
Je crois que sous Roosevelt, c'était 92%.
Ce que je veux dire, ça correspond plus ou moins au taux d'imposition en Europe, je pense.
En Europe, oui, c'est
à peu près dans la moyenne, donc on n'a rien à dire.
Absolument, oui.
Donc là, ces tranches ne fuiront pas. Par contre, 75% au-dessus d'un million de revenus annuels par part.
La fameuse nouvelle tranche.
La fameuse nouvelle tranche, c'est vraiment scandaleux.
Tout dépend. Attendez, il y a combien de Français qui sont concernés?
Je crois qu'il y a 3000 familles.
En théorie, bientôt, il n'y en aura plus, puisque les grands patrons vont être réduits de... On va réduire le salaire. Donc
c'est un non-sujet.
Oui, ouais. Par Renault, par exemple, on n'a pas 30%. L'État n'a pas 30% dans Renault. Non, pas beaucoup, finalement.
Non, je veux dire, ça concerne... Ça, c'est de l'effet d'annonce, entre guillemets, qui rassure...
C'est du symbole.
C'est du symbole. Je pense pas que quelqu'un...
Mais c'est important, le symbole, parfois.
Oui, mais c'est du symbole, uniquement. Donc, quelque part, je pense que ça n'a pas changé grand-chose au cours de la planète. De toute façon, il y a tellement déjà d'évasion fiscale... actuellement, alors qu'on n'est pas en 75%, je veux dire, est-ce que ça changera grand-chose? Je n'en suis pas sûr.
Non. Attendez. Et puis, je voulais juste intervenir dans la dérision. Il ne faut pas que tout ce qui a été promis reste dans le symbolisme, parce que ça serait quand même assez mal.
on sent le politique. Hein.
on commence à être très, très en retard. Il ne faut pas qu'on évite deux sujets, celui de l'emploi. On reste dans la ruralité, hein, bien sûr, et celui du monde agricole. On n'a qu'à commencer par l'emploi.
Oui, je sais. Je déplore vraiment que mon suppléant ne soit pas là pour le monde agricole. Mais bon, il m'en parle, donc j'arriverai quand même.
Il est sur une réunion...
Il est sur une réunion agricole, justement.
Justement, voilà.
Sur un problème de...
Oui, 50% d'exploitations rurales ont disparu en 25 ans.
Alors, c'est dramatique. Bon, c'est dramatique pour les humains concernés, déjà, hein, parce que c'est des familles qui n'ont pas... soit ne se sont pas reconverties, soit n'ont pas pu suivre. Il y a le facteur humain qui compte, déjà. Mais c'est dramatique aussi pour nous, pour la France. Moi, je me rappelle à l'école primaire où on nous montrait les plaines céréalières, le ceci, le cela, où la France était en autosuffisance alimentaire. Et c'était notre richesse. À partir du moment où il y a de moins en moins d'exploitations agricoles, ça veut dire qu'on est de moins en moins en autosuffisance alimentaire.
Mais on produit de plus en plus par exploitation.
Mais pas suffisamment. Actuellement, on est en déséquilibre quand même. On importe de l'alimentation.
Est-ce que ce n'est pas plutôt des questions de marché que des questions de quantité de production?
Il y a les deux. Il y a quand même... il y a les surfaces...
Parce que ça spécule sur l'alimentaire ces derniers mois.
Oui, mais les surfaces cultivables, ce sont peau de chagrin, de toute façon. Donc,
elles se réduisent, effectivement.
Il y a un moment où on ne pourra pas faire donner plus qu'elles ne peuvent. Il y a ce facteur-là. Il y a le facteur qui est un facteur environnemental sur le plan, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que les exploitations entretiennent qui les bacotées, qui les bois, etc. Et ces exploitations n'existant plus, on va sur des friches, on va sur des... Vous voyez les bordures actuellement? Si jamais il y a une étincelle sur les bords du Vieux, il y a tous les bords du Vieux qui flambent. Parce qu'il n'y a plus d'entretien des bords du Vieux, des berges du Vieux. C'est un phénomène de société qui touche à la fois les ruraux, parce qu'il ne faut pas oublier que sur une exploitation agricole, il y a à la fois l'emploi qui est lié à l'exploitation, mais il y a tous les emplois induits, c'est-à-dire le mécanicien qui travaille sur les tracteurs, l'épicerie du village, le maçon, tous les artisans qui gravitent autour sont des emplois induits.
Alors pour que demain ce monde agricole soit plus logique dans son organisation, est-ce que ça passe obligatoirement par une réforme de la PAC? Si oui, que faut-il privilégier dans cette réforme de la PAC? On entend dire de partout que la PAC s'orienterait vers un soutien accru aux petites exploitations plus respectueuses de l'environnement.
Oui, mais bon, les petites exploitations, il ne faut pas qu'on retombe non plus dans le bapacoulisme. Hein, parce que la petite exploitation soucieuse de l'environnement, qui fait du bio, etc., c'est très bien, il en faut. Mais on sait très bien que le rendement n'est pas suffisant pour compenser les besoins. Donc, quelque part...
Ce n'est pas l'avis de tout le monde.
Non, je parle sur le plan financier.
D'accord.
Je ne parle pas sur le plan financier, je parle sur le plan productif.
Oui, moi aussi.
Hein, bon, ben... C'est pas toujours ça contrebalance pas toujours, hein, et pas partout. Donc je vous dis, il y a à boire et à manger un petit peu dans ce système là. Moi je pense que ce qu'il faudrait surtout pour le monde agricole actuel, ce serait ça passe aussi par la PAC, mais la PAC n'est qu'un épiphénomène. Ça passe aussi par des changements de mentalité. Il faudrait que les gens paient, les produits soient payés à leur juste valeur. Et en fonction du travail, du besoin, qu'il y ait une liberté des prix agricoles.
Ça veut dire s'attaquer à la grande distribution?
Ben, quelque part, oui. Je dirais quelque part, oui. Parce que quand vous aurez fait disparaître toutes les petites épiceries, les petits commerces de proximité, la grande distribution pourra toujours ensuite s'entendre pour faire les prix qu'elle voudra. Il ne faut pas croire que ça restera au prix de...
C'est presque déjà le cas.
Ouais. Des discounters, quoi. Hein.
Mais alors, on s'y attaque comment? Parce que là, c'est clairement remettre en cause le libéralisme sur ce secteur.
Ben non, c'est pas remettre en cause le libéralisme. Je n'attaque pas la grande distribution en elle-même. Mais il faut que le français moyen se dise, ben oui, en novembre, des cerises, il n'y en a pas. Donc, ben, j'achète des pommes de garde. Ou des
alors le problème, il vient des consommateurs?
Non, mais on les pousse. Attendez, on les pousse.
Ce qu'on propose aux consommateurs. C'est surtout ça le problème.
Il y a la tentation. Je veux dire, vous comme moi, on sait très bien que c'est pas raisonnable, mais de temps en temps, on fait ce genre d'annerie, quoi. Bon.
Oui, mais enfin, quand même, les grandes surfaces sont des prédatrices par rapport à nos agriculteurs. Elles fixent des marges arrière, elles fixent leurs prix.
Elles font leur loi, ouais.
Elles font leur loi. Plus que le consommateur, il n'a pas d'argent, il n'en a pas beaucoup, il préfère payer moins cher. Donc, il va aller non pas vers des cerises qui viennent du Kenya, mais vers le produit le moins cher, peut-être l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande, ouais, qui est moins cher que notre agneau merveilleux de la Côte.
Au même prix, choisirait français, quoi.
Voilà, j'ai pris l'exemple des cerises. Enfin, bon,
bien sûr.
Vous voyez ce que je veux dire, c'est que on pousse les gens parce qu'on voit des pages comme ça de publicité, etc. Ben, quand vous avez un gamin qui dit maman, je voudrais bien des cerises, etc. Ben il y a un moment où vous dites oui, ben je vais t'acheter des cerises. bon, c'est vrai que l'agneau de Nouvelle-Zélande il est moins cher que l'agneau de la Côte que vous citiez. Et quelque part, il faut pas oublier qu'on nous conditionne, quoi. Je veux dire, il y a quelque part, il y a quand même un conditionnement. Et puis, il y a la concurrence.
Donc, vous prenez une régulation du comportement des grandes surfaces, des industries agroalimentaires comme Danone et Lactalis, par exemple.
Protéger un petit peu les productions locales.
Voilà.
Pas locales, françaises, quand je dis locales.
La culture du chanvre, du cannabis, pourrait aider les paysans. 1 milliard de recettes pour l'État, disait Vaillant, ex-ministre socialiste.
Bon, écoutez, tout à fait. Quand
vous êtes médecin. Un petit joint.
Quand mes cousins étaient jeunes, ils fumaient du bois de sureau parce que ça faisait des jolies petites cigarettes. Mais enfin bon, c'est pas pérenne toutes ces choses-là.
Non.
Il nous reste...
Non, moi le cannabis, non.
Il nous reste une petite minute, c'est totalement free, Françoise Rodet. Sur quoi vous voulez insister? Votre dernière minute, elle est libre.
Ma dernière minute est libre. Écoutez, ma dernière minute, je reviendrai un petit peu sur mon programme et sur ce côté par lequel j'ai envie d'accompagner, si vous voulez, les citoyens du Tarn et de la circonscription, la seconde, plus particulièrement, mais les Tarnais en général, je pense qu'on ne peut pas se dissocier les uns des autres, c'est les accompagner dans leurs trois principaux soucis, c'est-à-dire l'emploi, le logement et la santé. Voilà,
si vous me le permettez, est-ce que vous me laissez une
Paul
petite
Martin.
Minute? Voilà, moi je voulais conclure parce qu'ensemble nous pouvons agir, bien entendu, pour défendre les centristes en faisant le choix ou les choix suivants. Nous avons la vérité et la transparence. Nous essayons d'être très, très réalistes et parents, de concilier les Tarnais et les Français avec la République. De la productivité, vous en avez parlé tout à l'heure, en nous appuyant sur les PME. qui sont la clé de tout le succès de notre économie et les atouts pour notre territoire. L'équité et la justice, on en a parlé tout à l'heure, on l'a effleuré, au service des plus fragiles, tout en portant une attention particulière aux classes moyennes qui paient tout et qui n'en droit rien. On a parlé de la modernité et de l'innovation pour faire face aux défis des pays émergents. J'en termine, je n'abuserai pas de ma minute qui m'est accordée. On a parlé de jeunesse, une jeunesse bien formée, capable de porter l'avenir de notre pays. Nous voulons rompre avec une société qui étouffe la jeunesse et qui abandonne les seniors. On y revient petit à petit. Et de l'Europe en tant que véritable puissance politique et non seulement en tant que grand marché. Je vous remercie de m'avoir écouté cette minute et tous ensemble portons les couleurs et les idées des centristes tarnais.
C'était
merci.
Paul Martin, vice-président du nouveau centre tarnais, venu soutenir Françoise Rodet, candidate pour la deuxième circonscription du Tarn, sur ce scrutin des législatives des 10 et 17 juin prochains. Merci d'avoir joué le jeu.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
Merci.
Pour le second tour.